Y a-t-il vraiment des complots dans ce monde? Y a-t-il vraiment des conspirations? Est-ce qu'il y a vraiment des êtres humains qui ont décidé de notre extermination? Ou est-ce que tout cela, c'est la vision de quelques paranoïaques conspirationnistes? C'est ça que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui dans cette conversation du lundi. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation du lundi où je vous accueille près de mon feu à bois. C'est la première fois que je fais du feu puisque l'hiver s'en vient à grands pas. On annonce de la neige pour ce jeudi 31 octobre 2019. Alors bon, je ne sais pas quand vous allez entendre cette vidéo, mais en tout cas, je peux vous dire que l'hiver se rapproche et donc j'en ai profité pour faire du feu. Et je vous accueille donc à l'intérieur de ma maison pour m'entretenir avec vous sur cette thématique que j'avais commencé la semaine dernière. Vous vous souvenez, la semaine dernière, dans la conversation précédente, j'avais posé la question fondamentale, mais quel est le conditionnement fondamental, quel est le conditionnement le plus important qui fait que finalement nous sommes susceptibles d'être conditionnés de toute une série d'autres manières et d'être manipulés? Et ma réponse, en tout cas, ce n'est pas l'évangile de nouveau, mais ma réponse, c'est que ce conditionnement, c'est le fait qu'on nous a habitués et on nous a conditionnés à croire que les figures d'autorité sont là pour notre bien. Et c'est vrai que étymologiquement, l'une d'entre vous me faisait remarquer que autorité, ça vient du latin auctoritas, qui veut dire l'art de faire grandir, l'art d'élever quelqu'un. Et effectivement, normalement, une autorité devrait être cela. Mais cela fait longtemps, je dirais, que cette notion d'autorité a été pervertie. Et nous sommes donc dans une espèce de difficulté cognitive à nous retrouver face à des gens qui représentent l'autorité. Nous avons encore en arrière-fond de notre inconscient la croyance que les autorités sont là pour notre bien et sont là pour nous protéger, sont là pour prendre les meilleures décisions dans la gestion de la cité. C'est ça l'étymologie de politique. Politique, c'est polis en grec qui veut dire la cité. Donc la gestion de la cité. On a l'impression, on a cette croyance inconsciente que les gens qui sont au pouvoir sont là pour notre bien. Mais en fait, on se rend compte depuis un certain nombre d'années, je vous l'ai dit, donc je ne vais pas refaire la conversation de la fois dernière, on se rend compte que c'est de moins en moins vrai et ça devient de plus en plus visible. Avant, ils avaient encore l'art de se cacher, mais je dirais que grâce aux réseaux sociaux, qui maintenant deviennent de moins en moins libres, grâce aux réseaux sociaux, nous avons la possibilité de démasquer, je dirais, un certain nombre de manipulations qui sont présentes. Et donc, on aurait tendance parfois à voir des complots contre le peuple, finalement. C'est-à-dire, on pourrait avoir l'impression que l'élite mondiale, les gouvernements mondiaux, que la plupart des grosses compagnies commerciales comme Google, comme Amazon, comme Facebook, comme YouTube, etc., sont là avec des intentions malveillantes. Mais alors, évidemment, quand on commence à dire ce genre de choses, et je pense que vous en avez fait l'expérience puisque vous avez été nombreux dans les conversations précédentes à me le dire sous les vidéos, vous me dites « Ouais, mais enfin, quand j'aborde la thématique des vaccins, la thématique du sida, la thématique des chemtrails, etc., dont je vous parlerai aujourd'hui, tout de suite, dans mon entourage, on me traite de conspirationniste, on me traite de théoricien du complot, etc. Donc, essayons d'y voir clair sur, d'abord, qu'est-ce que c'est un complot? Alors, j'ai été voir au dictionnaire, un complot, c'est un projet concerté, secrètement, afin de nuire à quelqu'un ou à une institution. Donc, un complot, c'est un projet que quelques personnes font en secret pour essayer de nuire habituellement à une personnalité publique ou à une institution. Bon, j'ai regardé la définition d'une conspiration. Finalement, la conspiration, c'est pratiquement la même chose. Une conspiration, c'est un accord secret entre plusieurs personnes pour renverser le pouvoir établi. Bien. Alors, c'est assez drôle parce que ici, je suis en train de vous parler de complot des gens qui sont au pouvoir établi contre le peuple. Donc déjà, il faut bien comprendre qu'il y a une première inversion dans le sens, c'est que la plupart des complots et des conspirations ont été fomentés jusqu'à présent par des gens qui n'avaient pas le pouvoir et qui voulaient avoir le pouvoir ou qui voulaient discréditer quelqu'un qui était au pouvoir ou une institution qui avait le pouvoir. Or ici, la thèse que je voudrais vous soumettre, je ne vais pas tirer moi-même les conclusions tout de suite, je vais vous laisser tirer vous-même les conclusions, c'est qu'il y aurait un complot ou des complots, des multiples complots de la part des gens qui détiennent le pouvoir et l'argent, ou le pouvoir ou l'argent, c'est-à-dire les compagnies commerciales, les gens qui sont au gouvernement, les gens qui sont dans les médias dominants. Et donc l'élite mondiale aussi qui est en arrière-plan de ces grands amalgames. D'accord ? Bien. Et quand on parle de théoriciens du complot, de théorie du complot, de conspirationnisme, vous vous rendez bien compte que c'est un terme ce sont des termes qui recèlent un côté extrêmement péjoratif. Hein, quand on vous traite de théoricien du complot, c'est pas pour vous faire un compliment. Et quand je lis ce que différents sociologues et différents épistémologues pensent de cette notion de théorie du complot, ben en fait, ils se rendent compte que la notion de théorie du complot a été créée par les gens qui sont au complot, qui sont au pouvoir, pardon, ouais, ça c'est un lapsus assez révélateur, donc les gens qui sont au pouvoir pour faire taire et pour discréditer et pour diffamer les gens qui dévoilent les malversations de ces gens qui sont au pouvoir, sans entrer dans un débat sur le fond. Et donc, finalement, ça faisait dire à un chercheur du CNRS, sociologue français qui s'appelle Frédéric Lordon, il disait, finalement, les accusations de théorie du complot sont devenues le nouveau lieu de la bêtise journalistique, et on pourrait rajouter le nouveau lieu de la bêtise du pouvoir en général. C'est-à-dire qu'en fait, si on n'est pas capable de répondre aux arguments articulés des gens qui dénoncent un certain nombre de choses qui ne vont pas dans le monde, eh bien, pour ne pas être obligé de répondre à leurs questions, et leurs interpellations, qui très souvent sont fondées sur des faits, sur l'étude minutieuse d'un certain nombre de faits, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va les traiter de conspirationnistes, on va les traiter de complotistes, de théoriciens du complot. Comme ça, on met fin à la discussion directement. Et c'est quelque chose qui a été fait de tout temps. Auparavant, on traitait les gens de sectes. Hein, il y a quelques années, on traitait les gens de sectes. Avant cela encore, on les traitait de communistes, par exemple. Hein, souvenez-vous de la période sombre du McCarthyisme dans les années 50 aux États-Unis, où toute personne qui avait des visées un petit peu sociales, démocrates, était tout de suite soupçonnée d'être communiste et d'être à la solde de Moscou, etc., etc. Donc en fait, ça a toujours... Et on pourrait remonter comme ça dans le temps. Il y a toujours eu un vocabulaire. Comment est-ce qu'il s'appelait maintenant Himmler. Je crois que c'est Himmler qui était... Non, c'était pas Himmler, c'était Goebbels. Joseph Goebbels, qui était donc le chef de la propagande de Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale, est quelqu'un qui utilisait très souvent cette notion de théoricien du complot et de conspirationniste pour justement, faire taire tous les gens qui cherchaient à s'opposer au régime nazi. D'accord ? Bien. Alors, maintenant, avant que je ne vous donne un certain nombre d'exemples, je voudrais poser la question de est-ce qu'il y a vraiment des complots et est-ce que c'est important de savoir, de connaître exactement les intentions des gens qui détiennent le pouvoir et qui complotent contre le peuple, qui complotent contre nous finalement, de telle sorte que nous soyons de plus en plus pauvres, de plus en plus désinformés, de plus en plus restreints au niveau de nos libertés, de plus en plus surveillés, de plus en plus fichés, de plus en plus contraints à un certain nombre de choses qui ne nous conviennent pas nécessairement. Est-ce que c'est important de vérifier s'il y a une intention volontaire et consciente de la part de ces gens-là? Et moi, je dirais non, c'est pas important. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les faits, l'évolution des faits et surtout les conséquences de ces faits sur notre vie quotidienne. En fait, c'est ça qui est important. Et donc, c'est comme ça que vous pourriez sortir du piège lorsqu'on vous parle de théorie du complot. Vous dites, vous pouvez simplement répondre, et ça fait partie de questions qui m'ont été posées à plusieurs reprises par certains d'entre vous, en disant, mais qu'est-ce qu'on doit répondre aux gens qui croient qu'ils ont la vérité pure et vue, pure et dure, et qu'ils ne veulent absolument entendre aucun argument dans un sens différent? Ben, une des choses que vous pouvez répondre lorsqu'on vous attaque et lorsqu'on dit, ouais, mais ça c'est de la théorie du complot, c'est de dire, non, non, moi je m'en fous que ce soit un complot ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir l'impact que ça a sur ma vie aujourd'hui. Et ce que je peux te dire, c'est que ce soit un complot ou non, ça a un impact négatif sur ma vie. Ça me rend, ça me met dans une position plus précaire, plus pauvre. Ça me met dans une situation où je n'ai plus le choix de vacciner ou de ne pas vacciner mes enfants. C'est ça que je remets en question. Je m'en fous de savoir si c'est un complot ou pas. Je m'en fous de savoir s'il y a des Illuminati qui sont à la tête du monde. Je m'en fous de savoir qu'il y a 13 familles qui sont en train de diriger le monde. Je m'en fous de savoir qu'il y a un complot volontaire avec une association avec des extraterrestres, les petits gris, etc. On s'en fout de tout ça. Par contre, ce qui est réel et ce qui est prouvable, c'est l'impact que ça a sur nos vies, tous les jours de notre vie, et de voir que nos conditions de vie, que nos droits de liberté, etc., sont de plus en plus restreints au fil des décennies. Alors voyons ensemble très très rapidement quelques exemples de choses dont la mise en œuvre me paraît inacceptable pour les êtres humains que nous sommes et qui aspirons tout simplement à vivre notre vie paisiblement, en équilibre. Et je ne vais pas détailler mon argumentation, simplement, j'aimerais simplement aujourd'hui vous donner quelques preuves du fait que les gens qui sont en position d'autorité, les gens qui sont en position de gouverner, au pire, volontairement font des choses qui nous portent préjudice et qui sont malveillantes vis-à-vis nous, au mieux, ne font rien pour nous protéger. Je ne sais plus quel philosophe, je pense que c'est Machiavel qui disait en tant que philosophe que la légitimité du pouvoir, c'était de protéger ceux qui n'ont pas le pouvoir. Et que en cela, c'est la seule façon éthique de légitimer le fait d'être au pouvoir, c'est d'utiliser ce pouvoir pour protéger les sans-voix, les sans-instructions, les sans-ressources, les sans-argent, les sans-logis. Donc je ne suis pas contre la notion de pouvoir. Je suis contre la manière dont le pouvoir est exercé pour favoriser ceux qui ont déjà du pouvoir au détriment de ceux qui n'ont pas de pouvoir. Donc en fait, il y a une véritable inversion. Et c'est en cela qu'on pourrait dire que c'est un complot conscient ou inconscient de la part des gens qui sont au pouvoir contre le peuple. Donc, simplement, je vous fais une liste. Bien entendu, il y a des choses que je détaillerai dans les dossiers que je suis en train de préparer à votre attention. Mais je veux simplement vous garder dans une vision globale pour l'instant de ce qui se joue sur la planète, sans entrer dans les détails. D'accord ? Bien. Alors, est-ce que vous avez remarqué que les lois fiscales qui sont votées depuis des dizaines d'années favorisent en permanence les personnes morales, les compagnies commerciales, les sociétés commerciales, au détriment des individus. On nous a dit que c'était pour relancer l'emploi, donc il fallait favoriser les entreprises pour qu'il y ait une juste répartition des richesses. En fait, on se rend compte que c'est loin d'être le cas. Regardez le système bancaire. Le système bancaire est fait de telle sorte que quand vous empruntez de l'argent, vous devez toujours rendre plus d'argent que ce que vous avez emprunté. Vous allez me dire, c'est normal. Ben non, c'est pas tout à fait normal. On pourrait très bien imaginer un système bancaire qui soit sans intérêt. On pourrait même imaginer un système bancaire où il y aurait des intérêts négatifs. C'est-à-dire, si vous gardez trop longtemps votre argent chez vous, sans le mettre en circulation dans la communauté, eh bien, on vous fait payer des intérêts parce que vous ne faites pas circuler l'argent. On peut imaginer un système, je dirais, un système bancaire, un système financier de cette façon-là. Regardez l'injustice aussi de laisser la spéculation financière se faire de façon complètement débridée jusqu'à provoquer des crashs systémiques comme en 2008. Et en 2008, qui a payé les pots cassés? Ce ne sont pas les riches, parce que les riches avaient anticipé le crash et ils avaient acheté à la baisse, donc ils avaient parié sur la baisse et la chute de la bourse, et donc ceux qui étaient très avertis se sont énormément enrichis au moment du crash boursier de 2008. Il ne faut pas croire que quand il y a un crash boursier, tout le monde perd de l'argent, parce qu'il y a des gens qui parient sur le fait que ça va baisser, et donc ils achètent ce qu'ils pensent à un prix qu'il pense qui va être celui après le crash, mais en ayant déjà vendu anticipativement ce qu'il s'apprête à acheter. Donc finalement, ils vendent à 10 quelque chose qui ne vaut plus que 2. Mais ils l'achètent à 2 alors qu'ils l'ont déjà vendu à 10. Voyez ? Mais qui a payé les pots cassés de tout ça ? C'est nous ! On nous a fait payer à nous, la population, le renflouement des banques d'affaires, des banques privées, qui avaient joué avec des milliards de dollars de façon complètement imprudente, mais au moment où il y a eu le crash, eh bien, c'est nos impôts qui ont payé cela. Regardez ce qui se passe au niveau de l'Europe. On se rend compte que plus il y a d'Europe, plus il y a de pauvreté, et moins il y a de souveraineté au niveau des pays, au niveau des régions, de chaque région d'Europe, parce que tout est dicté à partir de technocrates qui ne sont même pas élus démocratiquement. Et lorsque le peuple, lorsque les peuples expriment par référendum leur volonté de sortir de l'Europe parce qu'on se rend compte qu'effectivement on s'est bien fait avoir, eh bien on ne tient même pas compte du résultat du référendum. Ça s'est passé en France, ça s'est passé dans d'autres pays, et regardez toutes les difficultés que les Britanniques ont à sortir de l'Europe alors qu'ils ont clairement indiqué leur intention de sortir. Et maintenant, on agite l'épouvantail de la récession économique en leur disant « mais si vous sortez de l'Europe, ça va être la catastrophe ». Je vous fais remarquer, pour ceux qui ont la mémoire courte, qu'on avait déjà dit cela à l'Islande, qui avait repris son indépendance au moment où ils ont foutu les banques d'affaires à la porte. On leur avait dit qu'ils allaient vivre une récession absolument abominable, et en fait, c'est exactement le contraire qui s'est passé. Regardez aussi ce qui se passe au niveau du droit de manifester et du droit de parole. Hein. Bon, vous avez vu que un certain nombre de gens qui tiennent des propos, je dirais tout simplement critiques par rapport à la marche du monde, ben, se font censurer de plus en plus. Et ceux qui veulent manifester, eh bien, se font tirer dessus, se font matraquer, que ce soit dans les rues de France avec les gilets jaunes, que ce soit à Hong Kong avec des manifestations extrêmement sanglantes. Et on pourrait multiplier les exemples de manifestations qui sont réprimées dans le sang. On a perdu aussi notre liberté de penser, évidemment, puisque, je dirais, les médias sont de plus en plus des instruments de propagande. Hein. Comme disait un humoriste, je lave mon cerveau tous les jours avec la télévision. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore qui me paraît inacceptable et dont je me dis, soit les dirigeants ne sont pas conscients mais ils ne font rien pour nous protéger, soit ils le savent et c'est encore plus grave. Il y a toutes les expériences de manipulation du climat avec le système HAARP, H-A-A-R-P, dont vous avez une photo à l'écran maintenant, qui est un système extrêmement puissant qui est posté en Alaska et qui mène des expériences depuis plusieurs dizaines d'années pour voir comment on est capable de manipuler le climat à des fins militaires, à des fins politiques, à des fins économiques. C'est-à-dire que ces gens-là sont capables aujourd'hui de provoquer un tremblement de terre partout sur la planète, où ils le veulent, quand ils le veulent. Ils peuvent provoquer un tsunami, ils peuvent provoquer une tempête, ils peuvent provoquer n'importe quoi. Et d'ailleurs, je vous apporterai un certain nombre de preuves dans un dossier qui me montre que, ben, par exemple, le tsunami qui a dévasté Haïti il y a quelques années est un tsunami qui a été déclenché par HAARP. Et comme par hasard, il y avait un porte-avions américain qui était tout près d'Haïti au moment où le tsunami a eu lieu, et les troupes américaines sont arrivées tout de suite à Haïti et ils ont installé un campement permanent. Pourquoi ? Parce que les États-Unis avaient besoin d'une position permanente dans cette région du monde, et une bonne façon de s'inviter dans un pays sans y être autorisé, eh bien, c'est d'arriver sous prétexte de l'aide humanitaire après avoir créé soi-même un tsunami. Je vous signale aussi que le tremblement de terre et le tsunami qui ont provoqué la catastrophe de Fukushima est quelque chose qui a été provoqué par ARP. La grosse tempête en France de décembre 1999, qui était vraiment très très bizarre au niveau de sa violence, c'est quelque chose qui a été provoqué par ARP. Pourquoi ? Eh bien, chaque fois qu'un pays ne veut pas s'aligner sur la politique américaine, eh bien, les Américains donne un petit coup de semonce au pays en disant « Ah, tu ne veux pas signer tel traité international. Ah, tu ne veux pas t'aligner sur ma politique internationale. Ah, tu ne veux pas me soutenir dans telle politique étrangère. Eh bien, tu vas voir ce qui va se passer. » Et on lui envoie donc une petite tornade, un petit tremblement de terre, un petit tsunami, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Des pays d'Afrique, par exemple, qui refusent d'ouvrir leurs frontières pour donner accès à leurs ressources naturelles, eh bien, on va provoquer artificiellement une sécheresse qui va faire que ça va décimer la population, et cette population va implorer l'aide de l'ONU, et donc les États-Unis vont venir en grand sauveteur de ce pays pour pouvoir soutirer les réserves qui se trouvent dans ce pays qui était convoité. Tout ça, j'aurai l'occasion de développer par la suite, mais si ça vous intéresse, allez déjà voir sur Internet les reportages sur ARP, ça donne froid dans le dos. Je peux vous parler aussi des épandages que l'on nous fout sur la gueule depuis quelques années maintenant. C'est ce qu'on appelle les chemtrails. En anglais, chemtrails, c'est chemical trails. Ça veut dire les traînées chimiques. Ce sont ces fameuses traînées dont vous voyez une photo ici à l'écran. Ce sont ces fameuses traînées que des avions qui volent à une altitude qui n'est pas l'altitude des avions de ligne, ils volent dans l'altitude des réservés aux militaires habituellement, et ils quadrillent systématiquement le ciel avec des traînées qui ne sont absolument pas des traînées de condensation, parce que comme vous le savez peut-être, la condensation, ça disparaît dans les secondes qui suivent le passage de l'avion, alors que là, vous constatez bien que ce sont des traînées qui s'épaississent de plus en plus jusqu'à mettre une chape complètement grise au-dessus du territoire, de telle sorte qu'on n'a plus accès au soleil. Alors, pendant des années, les gouvernements ont nié l'existence des chemtrails. Maintenant, ils reconnaissent qu'ils font de la géo-ingénierie pour lutter contre le réchauffement climatique, hein, le bon prétexte. Sauf que ce qu'on ne nous dit pas au niveau militaire et au niveau des États, c'est que dans ces chemtrails, on a des particules d'aluminium qui nous sont balancées sur la figure, il y a des particules de barium qui nous sont balancées, et il y a des nanoparticules aussi, dont j'aurai l'occasion de parler dans un dossier. Quand vous savez que l'aluminium, c'est un métal lourd qui est pas du tout assimilable par l'organisme, qui se dépose donc sur tous les légumes, y compris les légumes biologiques. Donc ça veut dire que quand vous achetez des légumes biologiques, eh bien vous mangez de l'aluminium qui aura peut-être tendance à s'installer tranquillement dans certaines parties de votre corps avec toutes les conséquences que ça peut avoir. On le sait avec la question des vaccins, eh bien là aussi nous sommes intoxiqués à l'aluminium simplement par l'épandage qui est fait sur nos têtes depuis des années sans qu'on ait la possibilité de dire non. C'est-à-dire on nous coupe du soleil, donc on nous prive de vitamine D. En plus, rien ne prouve que c'est efficace en termes de lutte contre le réchauffement climatique, et en plus, on nous balance des produits chimiques sur la figure. Si les autorités ne savent pas, en tout cas, ils ne font rien de nouveau pour protéger ceux qui n'ont pas de pouvoir, c'est-à-dire nous. Dois-je vous parler de Monsanto, qui vient d'être racheté par Bayer, qui... Pour moi, ça c'est le comble de l'absurdité, c'est d'avoir permis à une société privée de breveter le vivant et de pouvoir manipuler les graines de telle sorte que les agriculteurs ne puissent plus garder un dixième de leur récolte pour la ressemer l'année suivante et être autonomes. Les graines sont stérilisées, vous le savez. Mais qui a accepté ça un jour, bordel de merde ? Qui a accepté que ces graines soient résistantes à des produits toxiques qui dénaturent et qui détruisent l'humus de nos sols et qui provoquent une érosion absolument catastrophique ? J'ai lu les chiffres dernièrement et je ferai aussi une vidéo là-dessus. J'ai lu les chiffres, vous savez qu'au niveau de la planète, nous perdons chaque année l'équivalent de la moitié de la surface agricole de la France en terre arable. C'est-à-dire que chaque année, on perd la moitié de la surface agricole de la France cultivable. Et pour retrouver l'humus qui nous permettrait de cultiver, il faut compter entre 40 et 100 ans. Alors, dois-je vous parler de vaccins ? Non, je ne vais pas vous parler de vaccins, je vous ai déjà parlé de vaccins, mais la seule chose que je veux vous dire ici, c'est que ce qui me tue, moi, avec ces vaccins, c'est que les scientifiques et les autorités nient des choses évidentes. Regardez, quand ils ont lancé la campagne de vaccination contre l'hépatite B en France en 1995-96, de mémoire, je ne me souviens plus exactement, le nombre de scléroses en plaques, qui était un nombre assez stable en France depuis plusieurs dizaines d'années, qui était d'à peu près 20 000 personnes, est passé de 20 000 à 60 000 en 5 ans. Donc en 5 ans, on a multiplié par 3 le nombre de scléroses en plaques. Et ça coïncidait, mais c'était un hasard, hein? C'était un hasard, ça coïncidait avec cette immense campagne de vaccination contre l'hépatite B. Bon, maintenant, on a résolu le problème, on impose l'hépatite B aux nourrissons, à l'âge de 2 mois. Donc, tout va bien, ils seront paralysés même avant de pouvoir marcher. Donc, on n'aura plus de problème avec ça. Voyez, quand des parents disent « ma fille, mon fils », interagissait, disait déjà des premiers mots, riait avec nous, jouait, suivait du regard les objets qu'on lui présentait à la main, mangeait déjà un petit peu tout seul, prenait des choses en bouche, etc. On l'a vacciné et le lendemain, mon enfant avait disparu. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'interaction. Quand des parents par dizaines de milliers disent cela à des médecins, disent cela à des autorités. On leur dit, mais non, c'était une condition physique sous-jacente. C'est évident qu'il n'y a aucun lien entre les vaccins et l'autisme. C'est se foutre de la gueule des parents. Les parents, ils savent quelle était la condition psychologique et psychomotrice de l'enfant le jour avant la vaccination, le jour de la vaccination et le jour après la vaccination. Mais on continue à dire que c'est un pur hasard et qu'il n'y a évidemment aucun lien prouvé, etc. Donc, est-ce que là, les autorités ont véritablement la volonté de nous protéger ou est-ce qu'ils sont en train de protéger les intérêts des compagnies pharmaceutiques ? Je vous laisse répondre, mais moi, j'ai déjà répondu depuis longtemps. Les compteurs intelligents qui envoient des ondes à un rythme absolument infernal et qui rendent les gens malades, qui les empêchent de dormir quand ils sont trop proches de ce compteur. On ne nous a pas donné le choix entre les compteurs intelligents et les compteurs normaux. On nous les a imposés. Et maintenant, on est en train de nous imposer la 5G, qui est encore pire que les compteurs intelligents, mais qui vont faire une alliance avec les compteurs intelligents et les chemtrails. Donc ça, je vous expliquerai, mais les compteurs intelligents vont servir aussi de relais à la 5G. Et la 5G, c'est une gamme de fréquences qui a été utilisée et qui est encore utilisée par les services secrets de différents pays comme la Russie, les États-Unis, le Royaume-Uni, pour tuer des ennemis ou pour leur faire perdre complètement leur libre arbitre et leur volonté consciente. Voilà, et puis on pourrait terminer par le fameux nuage de Tchernobyl qui s'est arrêté pile à la frontière germano-française ou franco-allemande grâce à la sagacité des douanier, probablement. Et je dirais que j'ai l'impression d'avoir un remake du nuage de Tchernobyl, puisque maintenant, l'incendie de Lubrizol, cette entreprise de Rouen, c'est exactement le même scénario. Les autorités disent qu'il n'y a aucun danger pour la santé de la population, et ils viennent d'annoncer, c'est ce que je viens de lire, qu'ils vont faire une enquête de santé au niveau de la population en mars 2020. Waouh, génial! L'incendie a eu lieu au moins il y a un mois de cela, fin septembre 2019, et on attend jusqu'en mars 2020 pour faire des enquêtes de santé. J'imagine que c'est pour espérer ne rien trouver, ou en tout cas les gens qui doivent mourir de cela seront morts d'ici là, donc on ne devra pas faire de prise de sang pour des gens qui sont déjà morts. Donc tout va bien, messieurs, dames. Alors, quelle est votre conclusion? Eh bien, la conclusion, c'est que la croyance que les autorités veulent notre bien et ont des intentions bienveillantes vis-à-vis de nous, j'ai du mal à en trouver un indice de preuve. Peut-être que c'est par lâcheté, peut-être que c'est par ignorance, peut-être parce qu'eux-mêmes sont manipulés, mais en tout cas, ils n'ont pas fait ce pourquoi ils ont été mis en place, en position de pouvoir, c'est-à-dire ils ne font pas ce qui serait éthique de faire en tant que déteneur du pouvoir, c'est-à-dire protéger ceux comme nous, qui n'ont pas de pouvoir et qui n'ont pas le pouvoir de décider. Alors, dans ce cas de figure que je continuerai la semaine prochaine, et la semaine prochaine, je vous parlerai du suicide collectif de l'Ordre du Temple solaire et des attentats du 11 septembre, pas pour vous faire une analyse de ce qui s'est passé, mais pour vous faire une analyse de comment vous pouvez décoder ce que les médias vous disent à propos d'événements comme ceux-là et quelles sont les conséquences sur nos libertés individuelles. Donc, merci pour vos commentaires, merci pour votre bienveillance. Comme toujours, je ne vous demande absolument pas de me suivre dans tous mes raisonnements. C'est clair que ce sont mes propres conclusions après quelques dizaines d'années de réflexion et d'observation des médias et des discours des classes dominantes. Quoi qu'il en soit, quelle que soit l'intention consciente ou inconsciente, je pense qu'il s'agira sérieusement d'envisager des actions de désobéissance citoyenne non violente si on veut ralentir ou arrêter ce qui est en train de se préparer au-dessus de nos têtes. Je vous embrasse, à lundi prochain.